Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laurent Gérard et toute son équipe seront avec nous dans quelques minutes, mais à 8h40 sur RTL. Bien entendu, et comme chaque jour, notre revue de presse, Amandine Bécaud. Et on parle histoire ce matin, Amandine.
Oui, avec d'abord une rubrique que j'adore et que je vous recommande vivement sur le site internet du Figaro, rubrique consacrée à la langue française. Il y est ce matin question de ces expressions désuètes. Faire le mariole, tiens, par exemple. Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Pas du tout.
Bon, eh bien, sans doute, c'est ce que j'ai découvert, de la Vierge Marie. C'est ce qu'explique Georges Planel. Il est l'auteur des 1001 expressions préférées des Français. Au XIIIe siècle, raconte-t-il, mariole était un terme de mépris pour désigner la Vierge Marie. Notre faire le mariole d'aujourd'hui est probablement un mélange, poursuit-il, de ce mot et d'une expression du XVIe siècle, faire le mari, qui à l'époque signifiait feindre la simplicité ou la dévotion, être hypocrite. Mariole, qui rappelle le Figaro.fr, a aujourd'hui plusieurs orthographes. On peut l'écrire O-L, O-L-E ou encore O-2-L-E. M, le magazine du Monde, lui, nous plonge ce matin dans l'histoire d'un sujet ô combien polémique et toujours d'actualité, celle des voies sur berge à Paris. Quand elles sont inaugurées en 1967, on se vante, rappelle François Krug, de pouvoir traverser Paris d'ouest en est en un quart d'heure seulement. Oh, que cela semble loin. Mmh. À l'époque, cette voie express est le symbole des Trente Glorieuses. Rien, écrit le journaliste, ne devait entraver le progrès économique matérialisé par l'essor justement de l'automobile. Pourtant, rappelle le journal, ces 13 km de voies rapides vont très rapidement faire polémique. Et oui, à la mort de Pompidou, par exemple, figurez-vous que les élus de droite au Conseil de Paris proposent de leur donner le nom du président défunt. Les centristes s'insurgent. Est-il bien opportun, disent-ils, d'attirer l'attention sur cette voie express au moment où l'on prétend ne plus asservir la capitale à l'automobile? Nous sommes en 1974 et on parle déjà écologie. Il faudra attendre février 1976 pour que la plaque au nom de Georges Pompidou soit posée. Arrivée au pouvoir dans la capitale en 2001, la gauche n'osera pas la dévisser. Et aujourd'hui encore, le fantôme de Pompidou résiste, puisque la plaque est toujours là, juste au-dessus d'un feu de circulation et qui passe du rouge au vert inutilement, puisque je vous le rappelle, plus aucune voiture ne circule ici depuis l'automne 2016. Le Parisien magazine, lui, s'intéresse à ces poisons qui ont marqué l'histoire de Néron à Poutine, enquête sur l'arme secrète des puissants, un article passionnant notamment sur ces goûteurs, ces hommes de confiance qui, vous savez, testent les assiettes des tout-puissants. Alors la pratique, apprend-on, remonte à l'Antiquité. Et elle persiste, visiblement. Si les goûteurs, à proprement parler, n'existent plus, les cuisines des chefs d'État, par exemple, restent très surveillées. Le chef français Jérôme Rigaud, qui s'est occupé des banquets de la présidence russe pendant des années, à la fois sous Medvedev et sous Poutine, raconte ainsi comment des docteurs de l'armée passaient des échantillons de tous ces produits en laboratoire. « Je ne pouvais pas faire de mise en place, dit-il, sans avoir leur autorisation. Cette mise en place, elle se passait sous le regard d'un médecin et d'un militaire. Il gardait, ajoute-t-il, aussi un exemplaire de l'assiette, la conservait de manière stérile. » En prévision d'un éventuel examen ultérieur. Bernard Vaution, le chef de l'Élysée entre 2005 et 2013, se souvient, lui, des services secrets américains qui jetaient un œil toujours à ses fourneaux. Parfois, se rappelle-t-il, ils accompagnaient même les plats jusqu'à la table présidentielle. On se croirait dans un film. Enfin, Vanity Fair s'intéresse ce mois-ci à un monument de notre histoire, Simone de Beauvoir. Josiane Savigno a exhumé toute une série de lettres, parfois qui n'ont jamais été publiées. Non, écrit-elle, Simone de Beauvoir, ce n'était pas cette théoricienne froide, purement cérébrale, soumise à un Jean-Paul Sartre. Elle a aimé, oui, follement, de mille manières, n'a jamais cessé d'écrire. Elle parle bien sûr de ses lettres à Jean-Paul Sartre, justement, avec qui elle partageait tout, même ses infidélités. Ainsi, en 1938, elle n'hésite pas à lui écrire ceci. « Il m'est arrivé quelque chose d'extrêmement plaisant et à quoi je ne m'attendais pas du tout. » J'ai couché avec le petit Bost, voici 3 jours. Simone de Beauvoir décrit ensuite avec minutie, comme à son habitude, tout ce qu'il s'est passé, les baisers, les caresses. On est loin, très loin, écrit Vanity Fair, du bas bleu. Bas bleu, tiens, justement, c'est l'une de ces expressions désuètes que vous pouvez aussi retrouver ce matin sur le Figaro.fr. Expression née au XVIIIe siècle, qui, à l'époque, de façon péjorative, décrivait cette femme qui voulait s'exercer au métier d'écrivain. Aujourd'hui, rappelle le Figaro, cela désigne une femme savante, mais d'une pédanterie ridicule.
Amandine Bégaud pour cette revue de presse qui nous permet de nous projeter dans notre week-end.